Alors ben voilà, bonjour à tous. Donc je suis bien contente d'être là, de vous rencontrer. Donc je suis, ça fait grâce à mon travail déjà. Donc en fait j'ai travaillé, enfin ça fait à peu près 20 ans maintenant que je travaille sur, presque 20 ans, 19, sur la question du haut potentiel. Et j'ai commencé, je suis arrivée un peu par le hasard de la vie, parce que j'étais engagée dans une recherche interuniversitaire autour de cette thématique. Donc en fait, moi j'ai abordé la question du haut potentiel d'abord par la recherche. Je dis d'abord parce que assez vite après, en fait, on a ouvert des centres de consultation et dans le cadre de la recherche, on accompagnait des parents, des familles, des jeunes. Là, c'était réservé aux jeunes à l'université, on a dit. Et voilà, donc j'ai travaillé dans cette recherche entre 1999 et 2014. Et puis, j'ai fait une thèse aussi sur cette thématique-là, sur haut potentiel et fonctionnement émotionnel. Donc, j'aurai l'occasion de en parler. Et alors, donc, maintenant, je ne travaille plus dans la recherche, je suis enseignante en haute école, en psychologie. Et je consulte aussi à Singulaire Sectoriel, qui est un centre qui n'est pas spécifique pour les hauts potentiels, mais où, un peu par la force des choses, parce qu'on est trois à avoir travaillé dans cette recherche, on en accueille beaucoup. Donc, et on accompagne des enfants, des ados, des adultes, des plus de 60 ans. On n'a pas de limite d'âge, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, et puis donc, sur base de tout ça, en 2017, avec Catherine Fuchs, on a publié un livre qui s'appelle « Le potentiel en question », parce qu'on avait envie de faire un livre qui soit qui aille peut-être un petit peu à contre-courant de l'ensemble des livres qu'on pouvait trouver, mais qui répondent aux questions les plus fréquemment posées autour de cette thématique-là. Donc ça s'appelle en question parce que c'est 34 questions sur le haut potentiel et qui sont celles qu'on nous a toujours posées dans toutes les formations qu'on a faites, etc. Et c'est un peu grâce à ça qu'on s'est rencontrés avec Égide et que du coup je suis là aujourd'hui. Alors, ça m'intéresse aussi de savoir un peu qui vous êtes, mais peut-être qu'on va pas faire... vous n'allez pas tous redire qui vous êtes, ça serait un peu long dans le cadre de la conférence, mais surtout qui vous êtes par rapport à vos représentations du haut potentiel, c'est-à-dire comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette thématique-là, est-ce que c'est parce que vous êtes touché personnellement, est-ce que c'est la plupart ou pas spécialement? Oui? Ok. Est-ce que c'est parce que vous travaillez avec des personnes à haut potentiel? Oui? Non?
Oui.
Ok.
Oui,
on ne sait pas. D'accord.
On induit.
Alors,
on pense que, parce que voilà, il y a quelque chose en fait.
D'accord. Et alors, qui? Parce que Égide m'a dit qu'il y avait plutôt des coachs, plutôt des thérapeutes, qui Alors, je sais que vous avez déjà eu l'occasion ce matin de parler beaucoup des représentations du haut potentiel, mais ça m'intéresserait quand même que ceux qui ont envie me disent quelles sont les représentations des personnes ou du haut potentiel en général. Comment est-ce que vous voyez ça?
Ben moi, je pars quand même de ce matin, de cette journée, en gardant quand même certaines conditions. Moi, il y a trois mots que j'aime bien pour décrire le haut potentiel, c'est intensité, complexité et passion. C'est vraiment trois mots qui vraiment décrivent bien ce que ma représentation aujourd'hui.
Ok. Merci. Quelqu'un d'autre?
commence à réfléchir moi, à la définition objet d'un haut potentiel. Pour moi, il y a une notion de longueur dans le temps. Vous savez, c'est un, parce que parfois on peut être très bon, mais c'est juste un pic. Que voilà, un haut potentiel, pour moi, il délivre beaucoup, avec une facilité déconcertante, parfois en décalé, alors là, il y a du délivrable, mais sans dépenser nécessairement beaucoup d'énergie, enfin, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas d'entendre, mm-hmm. avec ce côté passionné que je rejoins ici, ici Laurent. Et parfois, alors tout ça, c'est quand, j'ai envie de dire, la personne se sent bien et qu'elle est bien dans sa peau. Après, de manière négative, j'ai envie de dire, il y a parfois des gens qui sont en décalé, isolés, on dirait qu'ils vivent un peu dans leur bulle, dans un système avec une intelligence spécifique, mais qui ne savent pas tellement faire le lien avec d'autres intelligences. Mm-hmm. Bon, voilà. Il y a un côté toujours un peu extrême quand même, intense d'être.
Et paradoxal.
Oui.
Pourquoi paradoxal?
Ben parce que moi je c'est moi qui suis venu et qui n'ai pas mon syndrome de l'imposteur.
Ah oui.
Par moment, oui, des choses qui peuvent paraître évidentes à d'autres ne le sont pas nécessairement. Et à l'inverse, donc oui, il y a un côté. Voilà, c'est ça, il y a un côté très paradoxal, autant des choses peuvent paraître d'une simplicité dans certains domaines, et puis dans d'autres, pour les autres, ça paraît très simple. Et pour la représentation que j'ai du mouvement paradoxal, c'est que par moment, oui, justement, il y a cette espèce de...
Ce n'est pas ça, quoi.
Oui, c'est paradoxal, quoi.
Il y a des questionnements.
Oui, il y a des questionnements, ça amène des questionnements, c'est... Ça, c'est ma représentation.
Non, mais c'est ce que je vous demande,
hein. Et je ne généralise pas, c'est vraiment mon ressenti, quoi. C'est,
d'accord.
Moi, le paradoxe, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, quoi.
Ok.
Et un temps de réflexion dans ton cerveau, il ne s'arrête jamais. Mmh. Bah non, il ne devrait s'arrêter. C'est pas s'arrêter, quoi. Donc, voilà. Je vais me demander de me poser 10 minutes, 20 minutes sur un transat au bord de la plage, je ne sais jamais pourquoi faire.
Pourquoi faire?
Pourquoi faire?
Pour se poser.
Me poser, je prendrai 10 minutes, je ne vais pas faire quête, quoi.
D'accord. Ok. Que quelqu'un d'autre a encore envie de dire ou...
Oui, peut-être moi je découvre la notion de d'hyper-responsabilité.
Ouais.
Alors en même temps je découvre ces aspects-là parce que c'est très nouveau pour moi, mais du coup oui c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué et je semble faire partie quand même de l'HPI.
Ok.
Moi
j'aurais
beaucoup
de
gravité de sa
possibilité.
Je voyais mon souhait
quand même.
C'est par moment un côté ovni, quoi. Pas l'impression de vivre sur la même planète. C'est une nouvelle ma représentation personnelle. Hein.
Ok. Bon, c'est bien, c'est intéressant. On va partir avec ça. Alors, bah moi, je vous propose de... Je vais vous proposer d'explorer une série de représentations qui sont fréquemment associées au potentiel dans la vie, dans les livres, ce genre de choses, et puis d'en parler avec vous. Mais d'abord, je voulais, mais ça c'est pas un scoop, hein, je pense que vous le savez, il y a vraiment beaucoup de vocables différents qui sont utilisés pour parler des personnes à un potentiel, donc parler au potentiel, se jouer, doué, talentueux, doué tout court, ou talentueux tout court, et puis il y a d'autres vocables encore plus à la mode qui sont ceux de zèbre ou de martien, ou encore de surchauffer du bulbe, suréfficient manteau, voilà.
Et moi j'aime bien les personnes de petit colin, les personnes encombrées de suréfficient sont faites.
Voilà.
Bien.
Voilà. Donc il y a toute une série de mots comme ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Mais je vous en parle parce qu'en fait, ce qu'on va mettre derrière le terme qu'on utilise est lourd aussi de sens et de représentation associée ou de paradigme qu'on prend dessus. Donc, par exemple, si on parle de doué et talentueux, ça veut dire que forcément, si on a du potentiel, on va en faire quelque chose. Donc on est là dans des schémas qui sont plutôt, qui prônent l'excellence. Et d'ailleurs, ces termes viennent plutôt du monde anglophone, où en fait, le haut potentiel est associé à l'excellence. Si on a un haut potentiel, on est obligé d'en faire quelque chose. Ce qui n'est pas spécialement le cas en Europe, enfin, on n'a pas vraiment la même vision. Après, si on parle de martien, de zèle, de surchauffé de bulbe ou personne encombrée de ce déficience mentale, tout ça, en fait, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que c'est une classe de gens, un groupe de gens à part, parce qu'en fait, à partir du moment où on dit zèbre, on crée une catégorie. Et donc, c'est vraiment une vision catégorielle de, du haut potentiel. Et puis, bon, ben, martien, évidemment, encore plus peut-être. C'est pour ça que nous, on a choisi le terme haut potentiel, qu'on ne trouve franchement pas encore tout à fait opportun non plus, mais on trouve que c'est plus neutre. C'est-à-dire que, d'abord, il y a le terme potentiel, donc en effet, c'est pas parce qu'on a du potentiel qu'on va forcément réussir à en faire quelque chose, ça c'est la première chose. Ou parce qu'en effet, il y a quand même, mais c'est là où, où on n'aime pas trop, mais on voilà, ça fait plus, or c'est pas l'idée. Mais on a pris haut parce que bah nous, je vous en parle dans un instant, on se réfère quand même à la notion d'intelligence et que donc il y a cette fameuse courbe et qu'il y a le haut de la courbe, le bas de la courbe. Même si c'est pas pour ça qu'on est mieux si on est d'un côté ou de l'autre. C'est pas du tout ça qui est derrière dans notre représentation, mais voilà. On cherche encore, on trouvera peut-être encore mieux dans les années qui viennent, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on n'est ni dans une vision catégorielle dans notre point de vue, ni dans une vision d'excellence. Que nous, on a vraiment, on s'est intéressé à la thématique du potentiel pour une vision de bien-être de l'individu et de développement de son potentiel, justement. Donc quelque chose qui lui convient, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être du talent, mais qu'il puisse bien vivre avec. Donc ça, c'est vraiment... un peu notre vision. Alors, du coup, en effet, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de haut potentiel? Bah, je vais vous dire de quoi on parle nous, hein, au bout de cette année. Mais je le dis en partant quand même sur, en ayant exploré pas mal tout ce qui existe à ce niveau-là. Donc, mais ça, je sais que je vous en ai parlé ce matin, donc je vais faire bref. En effet, nous, on s'est retrouvés face à une multitude de modèles, ce qui fait que comme ces modèles sont tous différents, qu'ils utilisent tous des termes différents, les méthodes d'identification, du coup, pour définir ce qu'on met derrière ce terme sont aussi toutes différentes, parce qu'en fonction qu'on introduit la créativité ou pas dans le haut potentiel, bah, en fait, on va avoir des méthodes d'identification qui sont différentes. Et puis, outre le fait qu'il y a de nombreux modèles qui existent, actuellement, les modèles qui existent sont très complexes parce qu'ils ont, et c'est très bien, ils ont voulu introduire dedans la dimension développementale, donc qu'est-ce qui fait qu'on développe ou pas son potentiel, et qu'est-ce qui va influencer ce développement. Mais du coup, nous, on s'est retrouvés dans notre pratique et dans notre quotidien avec des modèles inutilisables par les personnes qui doivent travailler dans la clinique. Donc, néanmoins, quand même, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un point commun dans tous ces modèles scientifiques, hein, pas dans les listes de caractéristiques, etc., mais dans les modèles théoriques et scientifiques, le point commun entre tous, c'est les hautes capacités intellectuelles. Donc ça, c'est la seule chose au jour d'aujourd'hui qui fait consensus dans tous les modèles qu'on a pu explorer. Donc c'est-à-dire que qu'ils soient anglophones, européens, qu'ils soient développementaux, qu'ils introduisent